Éric Deterre, bonjour. Voici venu le quatrième acte de Radio Scénique, votre émission sur Aligre FM entièrement consacrée aux arts de la scène. Et c'est une édition tout à fait volcanique que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous ouvrirons en effet notre émission de ce jour avec Edwige and the Angry Inch, une comédie musicale tout à fait particulière. C'est un spectacle musical explosif, en effet, qui est mené de main de maître ou de maîtresse, on ne sait pas bien, par le comédien Brice Hilairet, et qui sera prochainement repris au théâtre La Scala à Paris. Et nous le recevons, lui, le comédien, héros de cette comédie musicale, Edwige and the Angry Inch. Au passage, ça sera l'occasion pour nous de savoir comment se traite l'identité sur les scènes en ce moment. Bah, vous verrez, ce n'est pas un thème qui date d'hier, puisqu'on parle ici d'un spectacle inspiré d'une comédie musicale qui date de 1998. Moins volcanique, mais tout aussi débordante d'énergie et de créativité, ce sera notre deuxième invitée de ce jour. Elle se nomme Ève-Marie Boucher, avec elle nous inaugurons un partenariat avec les EAT, les écrivains auteurs et associés de théâtre, écrivains et écrivaines associés de théâtre. Cet organisme professionnel, il défend les droits des auteurs et autrices, certes, mais il attribue aussi tous les ans un prix pour la première parution d'un texte original de théâtre en langue française. Ève-Marie Boucher a présidé le comité de lecture, décidément, jusqu'en 2023. Et c'est Le Rocher, texte de Christophe Marakian, que nous évoquons avec elle. Un bon moyen de prendre le pouls de la création théâtrale en France. Volcanique, le mot n'est pas trop fort pour évoquer votre chronique, Pascal Duterte, notre architecte maison. Vous allez en effet, aujourd'hui, nous parler d'un volcan, et celui-là, il ne bafouille pas. Et celui-là, il n'est pas en Auvergne, il est au Havre. J'ai vraiment bien lu, au Havre ?
Oui, en effet, Eric, vous avez bien lu. Le volcan, c'est en effet le nom d'un complexe culturel havrais. C'est une œuvre de l'architecte Oscar Niemeyer. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment.
Ah ben d'accord, Pascal, et bien vous nous en direz tous tout à l'heure, parce que c'est en fin d'émission que nous vous retrouvons. En attendant, tous en scène, voici Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dotter. Le théâtre sur Aligre FM.
Brice Hilairet, bonjour.
Bonjour Éric.
Vous êtes donc le co-adaptateur et comédien principal d'Edwige and the Angry Inch, une comédie musicale qui sera reprise du 3 décembre au 4 janvier. Votre comparse Dominique Guyot, que nous avions annoncé au générique, n'a pas pu nous rejoindre, mais vous le représentez, puisque vous n'êtes pas seulement l'héros ou l'héroïne de cette comédie musicale, mais vous en êtes le co-adaptateur. Alors tout de suite, on va donner un petit indice aux auditeurs concernant le thème du spectacle. Tout de suite.
Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ?
Oui, Brice Hilairet, c'est de ça dont il s'agit, d'un dénommé Hansel Schmidt, un adolescent gay, est-allemand, passionné de rock, qui rencontre un soldat américain. Et pour se marier et surtout quitter le territoire est-allemand, Luther va persuader Hansel de se faire opérer pour qu'il devienne sa femme.
Avec la complicité de sa mère,
absolument.
De la mère d'Hansel.
Alors,
faut le savoir.
Tout se passe bien, et donc Hansel devient Edwige, un petit détail presse, ce fameux Angry Inch.
Bah, le Angry Inch, en français, littéralement, on pourrait le traduire par le petit bout en colère. Et c'est exactement ça, c'est une opération ratée, complètement. Et donc, il reste à Edwige un petit bout très en colère, qui est sa caractéristique et qui l'empêche d'être peut-être la femme qu'on lui demande d'être et qu'il serait prêt peut-être à devenir. Il ne passe pas exactement de l'autre côté, quoi.
Mais il devient quand même une diva.
Ah bah bien sûr.
Parce que c'est, disons-le tout
diva
de suite...
Rock.
Une diva rock.
Ouais.
Disons-le tout de suite, c'est un spectacle que j'ai eu le plaisir de voir au mois de mars. Et on a accueilli de la manière suivante par le mari d'Edwige qui s'appelle...
Yitzhak.
Yitzhak,
croate.
Exactement, qui nous dit avec son fort accent, le spectacle, il fait le bruit, beaucoup le bruit, mais il fait aussi l'émotion. C'est ça, Edwige and the
Angry Inch ? Je crois que c'est ça, ouais. En tout cas, c'est le challenge vraiment du spectacle. C'est de faire du bruit parce que c'est un concert rock. On dit du bruit, mais moi, j'appelle ça de la musique. Et on raconte une histoire. On est quand même au théâtre. On mélange beaucoup les genres. On passe du concert de rock au théâtre parce que, en fait, j'ai une histoire à vous raconter. Et c'est l'histoire d'Edwige. Et évidemment que... Qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves pour en arriver là, pour arriver à la fin du show que je ne dévoilerai pas évidemment ici. Donc oui, je crois que des moments d'émotion, il y en a quelques-uns à traverser. Et au milieu de ça, on rit On rit de ce parcours, on rit de cette audace, on rit de ce personnage brisé. Et c'est souvent ça qui est drôle dans la comédie, il faut qu'il y ait des brisures.
Alors elle est brisée, mais elle a cet humour sur elle-même, cette auto-dérision.
Oui. Ah bah oui, oui, beaucoup. Bah, c'est son arme principale pour tenir debout. Je pense que sans la dérision, elle serait sans doute morte depuis un moment. Non, elle tient grâce à une force incroyable et un humour dévastateur. Quoi.
Alors, c'est pas du hasard, elle est née en 61.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé en 61 dans,
Je crois qu'on a érigé un mur du côté de l'Allemagne de l'Est.
Alors, elle est représentative aussi de cette jeunesse est-allemande qui piétinait au pied du mur, dans cette espèce d'enfermement relatif ou de liberté relative, hein, un peu des deux. Et elle piétinait. Et en fait, ce qui se passe avec l'arrivée de ce Luther Robinson, ce soldat américain, c'est le faux sauveur.
C'est le faux sauveur, c'est tout à coup, c'est une lumière pour lui, parce qu'à ce moment-là, c'est un jeune homme. C'est une lumière vers peut-être l'endroit de ses rêves. Hansel, petit garçon, il écoute tous les chanteurs rock américains, il chante dans sa cuisine et il rêve de ça. Il rêve de partir, il rêve de s'émanciper, il rêve de quitter cet endroit compliqué pour devenir celui qu'il veut devenir. Et puis ce soldat américain, Luther Robinson, va arriver et il va lui promettre ça. Non seulement tomber amoureux de lui, lui dire « je t'épouse et je t'emmène loin d'ici ». Donc évidemment, c'est une sacrée poule aux œufs d'or pour le petit garçon, le jeune garçon qu'il est à ce moment-là. Mais la condition, c'est que évidemment, il va falloir passer des examens physique très complet pour
oui, parce que Luther Robinson, passer la frontière. Luther Robinson est tombé amoureux d'un garçon androgyne.
Exactement, très androgyne, qu'il a rencontré tout nu sur les débris d'une église.
Et pour lui, voilà. Et pour lui, il n'est pas question qu'il garde cet appendice qui ferait finalement de Luther Robinson un homosexuel.
Exactement.
C'est de ça dont il s'agit aussi.
Exactement. Je t'emmène, je te sauve, je te trouve très à mon goût, mais tu dois devenir une femme, car tu seras à mon bras. Et évidemment, ce sera pour une très courte durée, cette idylle. C'est un sacré sacrifice qu'il lui demande de faire.
Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une adaptation d'une comédie musicale, puis d'un film.
Ouais.
Rappelons le nom de l'auteur que je vais...
C'est John Cameron Mitchell.
Qui lui-même avait joué.
Exactement, qui a créé le spectacle. Les chansons sont signées Stephen Trask, paroles et musique. Et ils ont créé ce spectacle-là, off-Broadway, dans un entrepôt, en 1998. Ils l'ont joué à un moment, et ensuite, John Cameron Mitchell l'a adapté au cinéma. C'est devenu un film un peu culte, et puis John est un cinéaste qui a fait des films très importants par la suite, comme Short Bus, comme Rabbit Hole avec Nicole Kidman. Et c'est un artiste aujourd'hui queer indépendant, très important, au cinéma et sur scène. Et il a amené Hedwig sur scène à Broadway dès 2014.
Alors, pour rappeler, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce que veut dire le mot queer, je vais aller regarder dans le Robert. Le Robert dit que c'est une personne dont l'orientation, l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. C'est devenu une culture alternative.
C'est un terme qui va englober, vous avez raison.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce spectacle qui est, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, c'est de l'ordre du Rocky Horror Picture Show, dans le côté choc culturel.
Il y a quelque chose de ça, oui. Ce qui m'a donné envie, c'est Dominique Guillot, qui est le metteur en scène du spectacle. C'est lui qui voulait le faire depuis très très longtemps, et il m'en parlait, je ne connaissais pas du tout, il m'a montré le film. Il m'a fait une projection du film chez lui. Et... à la fin du film, je lui ai dit qu'évidemment, il fallait qu'il fonce, qu'il le monte. Je ne pensais pas du tout à moi, à ce moment-là. Ça me paraissait impossible, inenvisageable. Je ne me projetais pas du tout. On a parfois des petits soucis de confiance en soi, ça arrive. Et puis, il s'est passé un mois ou deux, il y a eu un confinement. Pendant un confinement, on réfléchit pas mal, hein, on a beaucoup que ça à faire. Et au sortir du confinement, je l'ai rappelé, je lui ai dit « Ok, bah, allons-y ensemble ». Et on a travaillé sur l'adaptation ensemble, et puis voilà, c'est né, on a rencontré les auteurs américains, ils ont été d'accord, on a fait des tests, je leur ai envoyé des chansons, et tout ça a été validé de tous les côtés et on a trouvé notre premier producteur.
Alors je vous propose qu'on rentre directement dans le cœur du sujet avec un extrait, non pas de votre comédie musicale parce qu'elle va bientôt commencer, on ne dispose pas encore d'extrait,
bien sûr.
Mais Pierre Demkoff qui fait notre programmation musicale a dégoté pour nous une version extraite du film et on écoute « Wicked Little Town ».
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Oui, le théâtre sur Aligre FM. Et aujourd'hui, on parle de Edwige and the Angry Inch. Et on a le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Brice Hilleret, qui est Edwige sur scène. On parlait tout à l'heure de l'adaptation. Il s'agit là de l'adaptation d'une comédie musicale qui était sortie en 1998. Aujourd'hui, on est en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont mal vieilli dans cette comédie musicale ou alors des choses qui ont bougé? On n'est plus tout à fait à la même époque.
Non, moi je ne pense pas parce qu'il s'agit vraiment d'une histoire qui elle-même se passe quelques années avant. Tout ce que raconte Hedwig, ça se passe au moment de la chute du mur de Berlin. Elle est née en 1961 au moment où on a érigé le mur. Donc, c'est une histoire qu'on raconte. Donc non, je ne trouve pas du tout que ça puisse être daté. Évidemment, pas du tout sur les thématiques. Et puis, on n'a pas du tout non plus l'habitude encore de se coltiner ces thématiques-là en France. Voilà, vous l'avez dit, aux États-Unis, ça a été créé en 98. Il a quand même fallu attendre 2014 pour que ça arrive à Broadway. Mais 2014, c'était il y a 10 ans. Entre-temps, ça s'est joué dans d'autres pays du monde. Il y a eu plusieurs adaptations. Ben voilà, c'est le moment pour que ça arrive chez nous, je crois.
Alors soyons clairs, je m'adresse là aux auditeurs qui pourraient avoir les oreilles qui vibrent à l'évocation des thématiques queer, gay, etc. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui est devenu presque une jeune femme, et de ses peines, de ses joies, de ses rancœurs.
C'est une histoire d'amour. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est une histoire d'amour et d'humanité. C'est pour ça que les gens, qu'ils soient queer ou pas du tout, sont touchés et sont emportés, parce qu'il y a un souffle épique dans l'histoire que raconte Hedwig, et il ne s'agit que d'amour, que de quelqu'un qui cherche son autre moitié qu'on lui a promis quand elle était enfant. Et puis qu'il croit le trouver de temps en temps, et puis qu'il se prend quelques bonnes baffes dans la gueule. Je pense que ça nous est tous arrivé, qu'on soit hétéro, gay, trans. C'est la même chose, c'est vraiment une histoire d'humanité.
Edwige, elle passe par plein d'états différents, dont la jalousie, parce qu'on lui a piqué une de ses chansons. Elle est la chanteuse la plus internationalement méconnue, c'est ça.
Mais oui. Edwige, elle est jalouse, elle est dure. Elle est très dure, comme souvent les gens avec qui on a été dur. ils peuvent se retourner aussi contre les autres, contre les mauvaises personnes. Et non, Hedwig, elle est pas du tout simple avec son groupe de musiciens, avec son mari.
Elle est casse-pied. C'est une espèce de diva.
Elle est un peu castratrice. Elle a pas tout à fait les moyens de sa comment dirais-je, de son orgueil, parce qu'elle voudrait être une star applaudie dans le monde entier, ce qu'elle n'est pas. Mais elle arrive quand même à s'en sortir, parce qu'elle elle suit l'amour de sa vie, qui est devenue une grande star de rock. Et elle le suit, et lui, il fait les grands stades et les grandes arénas dans toutes les villes. Et donc, elle va trouver les petites salles à côté, et elle dit qu'elle va récupérer le public qui n'ont pas les moyens de s'offrir les places pour le rock. Grand concert de rock.
Quand vous avez adapté cette comédie musicale de 98 avec Dominique Guyot, Brice Hilleray, est-ce qu'il y avait une volonté pour vous d'universalisme, de raconter une histoire dans laquelle tout le monde pourrait se reconnaître?
Absolument. Mais
ou
parce
est-ce
que
ça faisait déjà partie de la comédie musicale?
C'était déjà dans le film. Moi, en voyant le film, ma première réaction, ça a été de me dire « Il faut que je le montre à ma mère. Il faut que ma mère voit ça. Juste parce que ma mère, je sais qu'elle aime les histoires d'amour. Et elle va au cinéma pour voir ça, et ça la bouleverse, et ça la fait rire, et elle se projette, et exactement comme moi, on n'est pas tout à fait de la même génération, et pourtant, on a on a la même quête quand on va au cinéma ou quand on va au théâtre. Donc quand je me suis dit, ok, ce film-là, je rêve de le montrer à ma mère, je trouvais que c'était un bon curseur comme point de départ. Et donc oui, je veux que ce spectacle soit vu de manière universelle. Et c'est pour ça que c'est devenu un film culte. C'est parce que tout le monde se l'est approprié.
À Radio Scénic, c'est notre désir aussi que le maximum de spectateurs en profitent. Avant d'entendre un autre extrait de la comédie musicale, petite remarque, il y a un aspect qui est moins présent dans votre comédie musicale qui va être montée à l'Escala que dans le film. C'est l'aspect un petit peu paumé qui va de bar louche en bar louche, de cette espèce de groupe improbable avec cette diva tout en perruqué. Vous avez essayé de gommer un tout petit peu ça, qui est plutôt présent dans le film et moins présent dans votre comédie musicale?
Non, j'ai pas du tout essayé de le gommer. Alors d'abord, la tournée des Rades dont vous parlez, effectivement, c'est très propre au film, ça. Ça fait pas partie du livret de la scène. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que l'acteur créateur du rôle, John Cameron Mitchell, qui a écrit le spectacle et qui l'a créé et qui a réalisé le film, est un acteur un peu mélancolique, beaucoup plus que moi. Et on est aussi des natures très différentes. Lui et moi, j'ai vu la toute première version d'Hedwig en 98 sur scène, le opening night. Je l'ai vu en vidéo à New York il y a quelques semaines. Et même sur scène, il apporte un personnage beaucoup plus ténébreux, sans doute, que ce qu'on propose, nous. Ça me plaît, ça marche, mais voilà, le personnage nous emmène ailleurs. C'est un personnage comme un personnage shakespearien, et deux acteurs différents qui vont jouer Hamlet vont l'amener forcément ailleurs. L'histoire est la même, mais elle n'est pas incarnée de la même manière.
Parlons du jeu d'acteur. Vous êtes là dans ce studio un jour très pluvieux, jeune homme discret et discret souriant, et on vous retrouve sur scène avec cette perruque de lionne, ce micro-short avec des barésilles et ce crop top et outrageusement maquillé. Est-ce que dans ce cas-là, le maquillage, ça vous aide à sortir le personnage exubérant? Elle est totalement exubérante, y compris vocalement, musicalement.
Oui. Le maquillage, le costume, la perruque, la coiffure en général, tout ça aide les acteurs tout le temps, dès qu'on enfile. La première fois que j'ai été Hedwig après une séance maquillage, elle était là, il n'y avait plus de doute possible. Donc la voix suit, l'énergie suit, tout se forme autour de ça. Et beaucoup d'actrices vous diront qu'elles trouvent le personnage dès qu'elles enfilent les chaussures. Alors pour un acteur qui met tout à coup une paire de Santiago Rose pour la première fois, avec des barésilles, le personnage s'impose, quoi.
On disait tout à l'heure que c'est une histoire d'amour, on écoute Origin of Love, un extrait de la comédie musicale. Rappelons-le, c'est pas la comédie musicale que vous allez présenter, mais c'est un extrait du film de Cameron Mitchell.
Apprendre ce qu'était la nature de l'être humain et ce qui lui est arrivé. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était d'un genre différent. Oui, Et premièrement, la forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, deux visages sur un cou rond avec au-dessus de ces deux visages, en tout point pareil et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de quatre oreilles. En outre, chacun avait deux sexes et tout le reste en avenant. Il se déplaçait en adoptant une station droite, comme maintenant, dans la direction qu'il désirait. Et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les acrobates qui font la culbute en soulevant leurs jambes du sol pour opérer une révolution avant de les ramener à la verticale. Comme à ce moment-là, ils prenaient appui sur huit membres, ils avançaient vite en faisant la roue. Deuxièmement, il y avait trois catégories d'êtres humains, et non pas deux comme maintenant, à savoir le mâle et la femelle, mais il en existait encore une troisième qui participait des deux autres, dont le nom subsiste aujourd'hui, mais qui, elle, a disparu. En ce temps-là, en effet, il y avait l'androgyne, un genre distinct qui, pour le nom comme pour la forme, faisait la synthèse des deux autres, le mâle et la femelle. Au point de départ, le mâle était un rejeton du soleil, la femelle un rejeton de la terre, et le genre qui y participait de l'un et de l'autre, un rejeton de la lune, car la lune participe des deux. Et si justement eux-mêmes et leur démarche avaient à voir avec le cercle, c'est qu'ils ressemblaient à leurs parents.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Et Radio Scénique aujourd'hui qui parle de Edwige and the Angry Inch, cette formidable comédie musicale qui va être reprise à la Scala à partir du 3 décembre. Oui, Brice Hilleret, vous me rectifiez, vous qui êtes Edwige. On vient d'écouter le discours d'Aristophane extrait du mythe de la caverne de Platon. C'est une allusion à la multiplicité de l'individu et on parle que de ça, Edwige.
Il n'est question que de ça dans Edwige. Et puis ça, le discours d'Aristophane est arrivé juste après la chanson Origin of Love. Et Origin of Love parle essentiellement de ça, de cette histoire que la mère d'Edwige lui a racontée quand il était petit, qui est exactement cette quête de multiplicité, cette division, cette scission à un moment. Les chansons, on les a gardées en anglais, elles sont surtitrées en français.
Il y a de très jolis surtitres.
Illustrés
avec des petits dessins qu'on regarde avec plaisir, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un spectacle sur plusieurs plans. Il y a vous, il y a le groupe musical en direct.
Hein. Oui,
en
live.
C'est du live complet.
Il y a six musiciens sur scène.
Il y a l'histoire, il y a les chansons, il y a aussi l'intervention.
Sur Origin of Love, justement, il y a les projections des surtitres et il y a aussi des projections d'animation, de dessins originaux. C'est inspiré de la version américaine, évidemment, mais ce sont nos dessins à nous. Et qui illustrent complètement ce dont parle Aristophane.
Vous n'êtes pas le seul dans cette entreprise, vous êtes le co-adaptateur avec Dominique Guyot. Dominique Guyot qui est intervenu aussi dans les vidéos, dans les décors.
Toute la scénographie ici,
absolument. Comment est-ce qu'on arrive à se départir d'un modèle aussi fort qu'une comédie musicale mythique des années 90 ? Ou alors,
je pense qu'on ne cherche pas à s'en départir et que c'est le meilleur moyen, c'est de faire ça, de donner sa vision des choses, de faire sa propre version. Il faut savoir que sur la première page du livret américain, il est écrit, il y a une note pour tous les adaptateurs internationaux, il est écrit « Surtout, sentez-vous libre ». Surtout, amenez Edwige à votre culture à vous. Ne cherchez pas à coller absolument. Il y a des choses intraduisibles qui ne sont pas transportables dans une autre culture, dans la nôtre. Donc, tout le temps, le défi, ça a été pour nous d'avoir l'esprit Edwige, la mentalité Edwige, mais pas la mentalité américaine. C'est bien d'amener Edwige chez nous en France.
Il nous reste une toute petite minute et là ma question elle s'adresse au comédien que vous êtes, Brice Hilleret. Comment est-ce qu'on fait pour faire exister ce personnage sans que le spectateur se demande est-ce un homme, est-ce une femme ? On s'en fiche totalement, Edwige existe. Comment on y arrive ? Avec vos talons, vous l'avez dit, avec vos hauts talons en strass, votre petit body et votre perruque et ce maquillage outrancier, comment ça marche sans que ce soit, disons-le, grotesque ou ridicule ?
Mais ça, je ne peux pas vous répondre. Je peux juste me réjouir que vous me disiez ça. C'est un des plus beaux compliments parce que tout est là, parce que l'enjeu du spectacle est là. Si à un moment on se met à réfléchir à l'homme acteur caché derrière, on peut plus s'accrocher, quoi. On n'y est plus et on dégringole. Donc merci pour ça. À quoi c'est dû, je ne sais pas. Il y a une petite magie et j'en suis très très heureux.
Alors on va peut-être employer le mot talent et je ne vous laisse plus la parole derrière ce mot-là puisque vous devez nous quitter. Brice Hilleret, merci.
Avec
merci vous, on évoquait Edwige and the Angry Inch qui sera joué à partir du 3 décembre à la Scala et ce pour un mois. Merci.
Merci Eric.
Vous êtes sur Allegre FM 93.1 et Radio Scénique aujourd'hui aborde une double thématique. On vient de parler de Edwige and the Angry Inch et maintenant on va parler de votre travail à vous, Eve-Marie Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice de différents textes, certains pour adultes, d'autres pour enfants, qui ont été publiés. Vous avez fait des podcasts, vous avez obtenu diverses bourses. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est que vous avez présidé jusqu'en 2023 le comité de lecture des EAT. Qu'est-ce que c'est que les EAT ?
Oui, alors en fait jusqu'en 2024.
Parce oui, que voilà, vous avez attribué
en fait,
le prix.
2023-2024. Voilà. Donc la question, pardon.
La question, c'était qu'est-ce que c'est que les EAT ?
Voilà, qu'est-ce que c'est que les EAT ? Alors, les écrivains et écrivaines associés du théâtre, c'est une association qui a pour but de fédérer, bien sûr, des auteurs et des autrices de théâtre pour défendre leurs droits et pour mettre en valeur des textes, des écritures contemporaines, des textes de théâtre.
C'est la manière dont on défend le mieux les auteurs, c'est en mettant en valeur un texte. Alors, pour ça, il y a deux prix par an, un prix tout public et un prix jeune public. Vous êtes venu aujourd'hui avec sous le bras le Rocher, qui fait partie de la sélection 2023-2024.
Tout à fait, oui. C'est un texte effectivement qui a été sélectionné lors du dernier comité de lecture et qui sera bientôt mis en maquette dans le cadre des Jeudis Midi, C'est une manifestation qu'organisent également les EAT.
Alors ce sera le jeudi 12 décembre.
Le jeudi 12 décembre au Théâtre de l'Opprimé.
Alors mis en maquette, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est un peu plus qu'une lecture. C'est une lecture mise en espace. C'est pas une vraie mise en scène aboutie, mais c'est un peu intermédiaire. C'est-à-dire que c'est un peu plus qu'une lecture quand même.
On peut donner le nom de l'auteur. C'est Christophe Marraquion, l'auteur.
Oui.
Alors, la condition sine qua non pour concourir à ce prix, c'est d'avoir écrit un texte qui n'a jamais été mis en scène. Un texte francophone de théâtre qui n'a jamais été mis en scène, c'est ça ?
Oui, qui n'a pas encore été porté à la scène et qui n'est pas publié.
Alors, c'est le cas de ce texte-là, oui. Le Rocher. De quoi ça parle ? Si on résume un peu, il y a des oiseaux, des militaires, un volontaire, un rocher en mer battu par les éléments. Et puis, un personnage principal.
C'est ça, un personnage Corto. Principal qui... qu'on découvre un peu traumatisé finalement par la guerre. Il finit par dire qu'il a perdu son cœur sur le champ de bataille, quoi. Et donc c'est cet homme brisé qu'on voit là sur son rocher, entouré par ces oiseaux qui parlent et qui se moquent un peu. Ils sont un peu
c'est un peu cœur, le cœur antique.
Oui, c'est ça.
Alors, dans ces oiseaux, il y a Mike, qui est un goéland, qui l'apostrophe en permanence, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'en fait, ce rocher, c'est un endroit extrêmement exposé vers lequel aucun des soldats, parce que Corto, je ne sais pas si on l'a dit, est un soldat, Corto est volontaire, lui, pour aller sur ce rocher, on ne sait pas, peut-être pour se sacrifier, on ne sait pas.
Oui, c'est ça, oui, c'est là qu'on voit effectivement, qu'on ressent effectivement tout ce que la guerre lui a fait, enfin, le fait de faire la guerre, enfin, on le retrouve un peu, il se met lui-même en exil un peu sur ce rocher.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte ?
Alors, c'est pas. Enfin, moi, je peux pas.
Oui, vous présidez le comité
collectif.
De lecture. Oui,
je suis qu'une. Après, à l'intérieur du comité, je suis qu'une lectrice parmi d'autres. c'est à la fois la qualité de l'écriture, la force du texte. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, cette année, on a associé au dernier tour de lecture les élèves du conservatoire d'art dramatique du 14e arrondissement. Et eux, c'était vraiment leur gros coup de cœur, en fait. Donc, c'est un texte qui pourrait paraître un peu classique dans la forme, mais qui finalement parle encore tout à fait aux jeunes générations, puisque ces jeunes acteurs en devenir ont été vraiment touchés par ce texte.
Alors ça les a tellement touchés que c'est l'un d'entre eux qui va faire
Exactement.
La mise en maquette,
donc
une espèce de mise en forme sur scène. Ça consiste en quoi votre boulot ? Vous recevez des textes ? Vous en recevez combien par an ? Il y a un appel à texte
hein ? Oui, il y a un appel à texte. En fait, il y a
auquel tout le monde peut concourir.
Tout le monde peut concourir. Il n'y a pas besoin d'être adhérent aux EAT. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de conditions. Ni d'âge, ni de parcours, ni de quoi que ce soit. Et donc, on ouvre... Alors, le problème, c'est toujours comment faire pour à la fois recevoir des textes, mais ne pas être submergé. Enfin, donc, en fait, l'appel à texte est ouvert pour...
une durée limitée.
Officiellement, sur 24 heures. Donc, il faut vraiment...
Il faut viser juste.
Déjà, il faut viser. Mais il y a certaines années où... Alors ça, c'est le choix après du président ou de la présidente. Il y a certaines années où le nombre de textes est limité. Donc là, il faut carrément, ça s'ouvre à midi, il faut vraiment à midi 01 envoyer son texte. Sinon, moi, je n'étais pas vraiment favorable à ça, mais ça, après, c'est toujours un peu...
Votre règne est terminé, donc...
Voilà, la quadrature du cercle, on ne sait pas jamais comment faire. Moi, j'avais du mal avec cette limite en nombre. Mon choix, moi, c'était plutôt de prendre tous les textes, quitte à faire une présélection un peu...
Alors, tous les textes, c'est combien ?
Alors, par exemple, l'année dernière,
2023-2024,
c'était quand même 345 textes.
D'accord, il y a 345 auteurs potentiels qui ont...
Et encore, c'est-à-dire 345 textes qui ont été validés, parce qu'il y en a toujours qui ne respectent pas tout à fait les conditions. Enfin, il y a des conditions d'anonymat, etc. Voilà, si jamais les textes ne sont pas correctement... anonymisés, etc. Enfin, potentiellement, il y en avait un peu plus.
On peut préciser que tout ça est parfaitement public. Hein, c'est sur le site des EAT. On mettra le lien sur notre page. Moi, je vous propose une chose. On a beaucoup parlé de ce texte, c'est de s'y plonger. Là, on a choisi, pour des motifs de praticité, des monologues. Les monologues où Cortot rédige son journal, il est en pleine bataille. On ne sait pas bien de quelle bataille il s'agit. On sait que c'est au XXe siècle, peut-être le XXe siècle.
Oui, alors, c'est pas vraiment...
Voilà. Nous, on a fait notre propre mise en maquette ici, avec une mise en espace sonore. On écoute donc un extrait du Rocher, ce texte de Christophe Marakian.
J'avance. Je suis sous un ciel de cendres, de braise et de soufre. J'avance. L'horizon spasme, tangue, se délite à chaque secousse que vomit l'univers. Mâchoire soudée pour échapper au déluge de rage, j'avance. Ordre vociféré, charge délirante. Vers cet étendard flottant sur le cadavre lacéré d'un clocher, j'avance. Pas à pas, je progresse, m'arrache, m'acharne. Par instinct, habitude, par dépendance, j'avance. Faire un pas, c'est déjà ça. Rejoindre la minute d'après, c'est déjà loin. Destin héroïque. Subitement, le monde se désintègre. 10 000 soleils s'allument tout autour de moi. Ordre sans substance, charge mutilée. Une pluie de tripes et d'os calcinés s'abat dans un bruit flasque. Hurlement. Est-ce moi qui gueule comme un démon ? Une chaussure accrochée à une moitié de jambe retombe. La terreur me ronge les entrailles, je dégouline de larmes, de morve et de pisse. Mais de moi, rien ne manque. Alors je repars, j'avance. À quatre pattes, j'avance. Agrippé au mélange de boue et de chair humaine, vers cette saloperie d'étendard, j'avance. Destin héroïque.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ève-Marie Boucher, ça déménage. Là, on a l'impression, on l'a situé pendant la guerre 14-18, les tranchées, c'est un petit peu l'idée. Mais à la fois, ce texte, et c'est peut-être sa force, la force du Rocher de Christophe Marakian, c'est d'être situé un peu partout, c'est toutes les guerres.
Oui, c'est ça, ça peut correspondre à n'importe quelle guerre, en fait. C'est vraiment la guerre en tant que... En elle-même, dont il est question, et c'est pas du tout lié à un contexte historique précis, en fait.
En même temps, vous parliez d'un texte qui était plutôt classique. On pense à des épopées tragiques antiques.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Oui.
Alors, ça m'amène à vous demander ce que c'est qu'un texte de théâtre. Vous qui êtes, qui avez été sur l'année 2023-2024, la présidente du comité de lecture des EAT, des textes de théâtre des EAT, c'est quoi un texte de théâtre ?
Alors, c'est vrai que c'est toujours une question qui nous préoccupe, mais parce qu'on en reçoit beaucoup. Et en plus, il y a différentes tendances qui peuvent se dégager dans l'écriture. Mais l'important, c'est que déjà, c'est un texte qui est destiné à être dit. Donc, il y a cette dimension-là qui est importante aussi, que ce soit un texte qui était pensé pour être dit. Et dans la pièce, bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose qui se joue au présent de la scène, en fait. Enfin, c'est au présent du plateau. C'est
ça aussi qui est important. Il faut une construction dramaturgique.
Il faut une construction, enfin, quelque chose qui se joue vraiment au présent de la scène. C'est pas simplement un récit. Il y a quelque chose en jeu, quelque chose qui se noue, qui peut peut-être se dénouer après, mais quelque chose qui se joue vraiment sous le regard des spectateurs, en fait.
Dans ce que vous avez reçu, vous avez dit 300 et quelques textes, oui, pour l'exercice 2023-2024.
Ouais. C'était un peu moins l'année précédente.
On va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure avec Brice Hilleret concernant Edwige and the Angry Inch, qui parle de l'identité. Quels sont les thèmes forts qui sont illustrés,
oui,
par les textes?
C'est vrai qu'on, selon les années, moi, donc j'ai été lectrice pendant 5 ans et j'ai présidé les deux dernières éditions. Et c'est vrai qu'on voit des tendances qui émergent un peu selon les années ou disons un peu sur les dernières années. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui concernent l'écologie, crise climatique, effondrement, etc.
Identité également.
Alors voilà, les questions d'identité sont effectivement très présentes. On a aussi une tendance qui serait autour des violences, les violences faites aux femmes, aux enfants aussi, les violences sexuelles, enfin, des choses comme ça qui remontent pas mal, qui correspondent un peu à des préoccupations de société. Enfin,
est-ce que vous voyez aussi des espèces de tics d'écriture, des choses que vous voyez d'un texte à l'autre en vous disant, mais bon sang, on l'a déjà lu 1000 fois.
Je ne dirais pas ça comme ça, non. Après, c'est vrai qu'il y a des textes qu'on élimine assez vite parce qu'ils sont écrits, disons, d'une manière datée, mais dans le sens où de ce qu'on s'imaginait à un moment qui pouvait être le théâtre, trop formaté. Moi, je trouve qu'il y a une grande liberté, finalement, maintenant. Les gens s'approprient vraiment l'écriture théâtrale en y mettant... justement, en s'affranchissant de formes. Pour beaucoup, hein, on a beaucoup de textes quand même de qualité.
Est-ce qu'il y a aussi une reprise des codes anciens, par exemple, du boulevard? Est-ce que vous recevez des pièces de boulevard revisitées?
Alors, on en reçoit toujours un peu. Honnêtement, c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc, c'est vrai que on n'en a jamais reçu d'excellente. Peut-être que si on en recevait une qui soit vraiment extraordinaire, elle pourrait aller jusqu'en sélection. En général, les gens qui écrivent justement des formes, c'est ce que je dis, c'est des formes un peu datées entre guillemets, le font pas forcément toujours non plus avec un talent extraordinaire. Et du coup, de toute façon, c'est des textes qui vont pas très loin parce que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. On a envie de mettre en avant une certaine recherche dans l'écriture, une vraie écriture, quoi, quelque chose qui...
Un texte
une langue.
Oui, une langue. Un texte de théâtre, c'est une forme assez courte, hein, même pas une centaine de pages.
Ça dépend. On en a reçu qui faisait 500 pages.
Oui, puis, peut-être, là, j'oublie de citer Claudel et son soulier de satin, mais la plupart des formes sont des formes assez courtes. On est emporté par le texte au bout de combien de temps? Est-ce que ça se passe tout de suite, le coup de foudre avec
Alors
le texte?
Ah oui, ça, il n'y a pas de règle. Il y a certains textes qui demandent... Alors après, c'est vrai que nous, on est aussi en position de lire. Donc, c'est pas exactement... Ce sont des textes qui ne sont pas faits pour être lus. Donc, il faut aussi se projeter, les imaginer, porter à la scène. Il y a des textes qui peuvent être agréables à lire, mais qui n'ont pas forcément un potentiel extraordinaire à la scène. Et inversement, il y en a qui sont tellement pensés pour la scène que ça demande un peu aussi de se projeter, de rentrer dedans. Donc il n'y a pas de règle absolue là-dedans.
Alors, ce Rocher de Christophe Marakian qui va être mis en maquette, donc c'est une lecture plus, sur la scène du théâtre de l'opprimé. C'est un texte très, très, très scénique, très dramatique, mais qui ne prend pas en compte une réalité du théâtre, c'est la distribution. Il y a 11 personnages, il écrit lui-même que l'idéal, ce serait d'avoir 11 comédiens. Est-ce qu'il y a un principe de réalité dans l'écriture théâtrale aussi, tel que ça peut être le cas dans les mises en scène, de réduire le nombre de personnages?
Ça se sent quand même, oui. Ça se sent quand même. Il y a... Alors, en fait, tout existe. Il y a effectivement des auteurs, autrices qui n'en ont rien à faire et qui vont mettre 20 personnages s'ils en ont envie. Et après, au metteur en scène ou à la metteuse en scène de se débrouiller avec ça pour... Et d'autres dont on sent effectivement qu'ils sont plus conscients de des contraintes et qui font des textes à 1, 2, 3 personnages.
Ève-Marie Boucher, avant de conclure, est-ce que ça vous dit qu'on écoute encore un extrait du Rocher que lit notre petit camarade Pascal Dutertre? Donc, Le Rocher, texte de Christophe Marakian.
Je vacille. Une résille forgée par les ténèbres dévore le ciel, lointain au désespoir. L'air est saturé, rempli de tout ce qui peut pénétrer un corps. Il vibre d'une seule masse à chaque traînée stridente qui le déchire, grêle de projectiles ardents, sadiques, hurlants. Je titube, c'est l'enfer qui dégueule dans mes tympans, vrille et pénètre mon crâne, s'y installe dans un vacarme à déchirer mon cadavre. Non, c'est faux. Je respire encore. Sous cette averse du diable, je suis toujours en vie. L'âme carbonisée, mais en vie. Pourquoi moi, seul parmi la centaine de milliers, armé d'uniformes mutilés, inconnus, ignorés, j'y suis sous ce putain d'étendard. Qu'importe. Je chancelle, les bras ouverts, suppliant, psalmodiant, qu'on m'achève et que le bruit cesse. Qu'on m'achève et que le bruit cesse.
Ève-Marie Boucher, pardon. Okay. Ce texte-là, on va avoir le plaisir de l'entendre mis en maquette. Donc, le 12 décembre au Théâtre de l'Opprimé, c'est à...
C'est à midi.
C'est
comme
à midi.
Son nom l'indique, c'est les jeudis midi.
Rappelons-le, vous représentez les EAT avec qui Radio Scénique démarre un partenariat. Et Marie Boucher, merci de votre visite. On va tout de suite entendre la chronique de Pascal. Tout de suite, voilà, je vais... Pascal, aujourd'hui vous allez nous parler des volcans, enfin disons, d'un volcan, celui du Havre précisément. Car en effet, cette ville portuaire est bien une zone volcanique. C'est vous qui avez écrit ce texte-là, il faut le lire pour le croire. Et ce, grâce à un architecte brésilien, expliquez-nous ça, c'est bien mystérieux.
Cet architecte s'appelle Oscar Niemeyer, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Pour comprendre l'histoire de cet étrange édifice, il faut remonter au 24 juin 1961, le jour où André Malraux, ministre de la Culture du président de Gaulle, tient un discours sur la création des maisons de la culture. Le Havre eut le privilège d'essuyer les plâtres. Une association a d'abord été hébergée dans le musée de la ville avant d'investir les locaux d'un théâtre, où elle restera pendant 15 ans. C'est en novembre 1982 que la Maison de la Culture prend possession du bâtiment qui lui est destiné, conçu par le célèbre architecte Oscar Niemeyer. Pour l'inauguration, on projette le film Napoléon d'Abel Gance dans la grande salle.
Ce Niemeyer, pourquoi est-il connu ?
Il est principalement connu pour avoir dessiné les édifices emblématiques de la nouvelle capitale du Brésil. Brasilia est inaugurée en 1960, mais la dictature s'installe en 1964, obligeant l'architecte à s'exiler en France, puisque membre du Parti communiste. Il est connu aussi pour avoir dessiné le siège de ce parti, situé place du Colonel Fabien, à Paris, dans les années 1970. C'est aussi à la fin de ces années-là
qu'il est choisi
pour concevoir la nouvelle maison de la culture du Havre, ville alors dirigée par le PCF. Après la chute de la dictature militaire, il retourne au Brésil en 1985 où il construit le musée d'art moderne de Niterói et l'auditorium de São Paulo, entre autres. Il meurt en décembre 2012 à 105 ans. Mais revenons à l'année 1982, lorsqu'est inaugurée la Maison de la Culture du Havre, et regardons où se trouve cet équipement, car n'oublions pas que la ville, en grande partie bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruite sur les plans d'Auguste Perret. C'est dans un paysage urbain profondément modifié, avec sa grille orthogonale de larges avenues, que l'édifice est installé. Plus précisément, sur une place carrée de 120 mètres de côté qui prolonge le rectangle formé par le bassin du commerce, ce qui dégage une longue perspective, un vaste miroir d'eau. Cette place, délimitée par des barres de logements, est située non loin du marché et de l'hôtel de ville. Les formes courbes et la blancheur du volcan de Niemeyer contrastent curieusement avec les formes très rectilignes, voire austères, des façades de béton gris.
Mais alors pourquoi ce nom de volcan, Pascal ? Je vous le demande.
Eh bien, en effet, il n'y a pas un volcan, mais deux. Le grand, qui abrite le théâtre, une salle de spectacle pour 1200 spectateurs au départ, et le petit volcan qui abritait une salle modulable et un cinéma maintenant remplacé par une bibliothèque. Ce nom a été officiellement donné par Alain Milianti, directeur en 1990, époque à laquelle l'équipement est déclaré scène nationale. En effet, le bâtiment qui abrite le théâtre a une forme de volcan asymétrique, disons une forme hyperbolique, large à la base, plus étroite au sommet, sur un plan circulaire. Niemeyer est connu pour l'utilisation du béton armé et des formes courbes que celui-ci permet par sa plasticité. On peut dire que ses œuvres ont souvent un aspect sculptural, voire abstrait, au lyrisme affirmé. Il faut préciser aussi que les deux volcans ne sont que la partie émergente de l'équipement, dont une partie est sous le niveau du sol. La place est constituée d'une esplanade située au niveau des rues environnantes, tandis que le parvis se trouve 4 mètres plus bas, accessible par un plan incliné et un escalier. Les accès principaux du théâtre et de la bibliothèque se font donc par le niveau bas du parvis. Il y a le grand hall d'accueil et une liaison souterraine qui relie les deux équipements.
Et le théâtre, comment est-ce qu'il se loge dans cette forme volcanique ?
Il est vrai que cette forme ne laisse pas soupçonner la fonction qu'elle abrite. Ce n'est pas du fonctionnalisme, puisque la forme ici ne suit pas la fonction. Nous ne sommes pas non plus dans le rationalisme, très bien représenté par l'architecture de Perret, dans le décor urbain environnant. L'architecture du volcan s'apparente plutôt à l'expressionnisme et à l'art abstrait, matérialisé par la forme hyperbolique asymétrique. Il faut rappeler que Niemeyer admirait Le Corbusier, qu'il avait rencontré au Brésil en 1936, et avec qui il avait travaillé au projet de l'ONU à New York. Le Corbusier, qui, malgré la rigueur de ses théories, définissait l'architecture comme le jeu savant, correct et magnifique des formes assemblées sous la lumière, et ne négligeait pas non plus de recourir aux courbes dans ses projets. Maintenant, si on prend un grand couteau et que l'on coupe en deux verticalement le volcan dans l'axe de la scène, on verra que le volume se partage en deux parties égales, l'une consacrée à la salle et l'autre à la cage de scène et au plateau. Bien sûr, vu en plan, la scène se trouve quelque peu coincée dans l'enveloppe semi-circulaire et dans une architecture aussi parfaitement circonscrite, nulle extension n'est envisageable sans nuire à la beauté du geste, sauf au niveau du parvis sous la toiture terrasse. Le 6 janvier 2015 a eu lieu une nouvelle inauguration du théâtre avec un concert dirigé par Jean-Claude Casadesus. Le volcan a rouvert ses portes après 3 ans de travaux qui ont permis d'améliorer l'acoustique de la salle et augmenter le confort des espaces d'accueil du public. D'ailleurs, la jauge est passée de 1200 à 800 places.
Fin de cette troisième édition de Radio Scénique, votre nouveau magazine sur la création. C'est pas la troisième d'ailleurs, c'est la quatrième. Le temps passe vite. Votre nouveau magazine sur la création scénique à l'antenne d'Allegre FM 93.1. Merci à Brice Hilleret qui a co-adapté, qui est le comédien principal du formidable Edwige and the Angry Inch. Vous retrouverez ce spectacle musical et très visuel à partir du 3 décembre au Théâtre La Scala à Paris. Merci à Eve-Marie Boucher qui représentait aujourd'hui les EAT, notre partenaire pour la saison. Elle nous a présenté Le Rocher, un texte de Christophe Marakian qui sera présenté sur scène le jeudi 12 décembre 2024 à midi au théâtre de l'Opprimé dans le 12e arrondissement. Concernant mon équipe de ce jour, merci à Pascal Dutertre pour sa chronique architecturale et les lectures. Un grand merci également à Pierre Demkoff qui m'a aidé à la préparation de cette émission et à ciseler pour nous une belle programmation musicale. C'est Kumba Quest qui était à la régie aujourd'hui. Merci à elle. Elle était accompagnée d'Ephraim qui faisait aujourd'hui ses débuts. Merci à tous deux. Nous nous retrouverons, nous concernant, le 9 décembre pour une nouvelle édition de Radio Scénique. Et tous les jeudis matins à 11h50, c'est la scène de la semaine. Bah, d'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. Il est 10h58. Marcel Achard disait au cinéma, on joue, au théâtre, c'est jouer. Alors, après le théâtre avec Radio Scénique, vous retrouverez à 11h, toute l'équipe de Vive le Cinéma.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.